à voix haute, sans effort de projection dans le médium, 2 ou 3 heures durant, les pages d'un livre. Le monde est alors celui de ce livre. J'ai confié, je confie à ma voix le soin de me représenter tout entier.
Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait une autre et m'aime et me comprend.
L'assassinat m'a coupé la gorge. On m'a dérobé mon argent.
Oui, vorum, me minerimus. Ille habet quod sibi debebatur.
Honeste vixit, honeste obit. Quid habet quod queratur. Abasse crevit, et paratus fuit quadrantem destercore. Morticus tollere.
Place Colette, à Paris, devant la Comédie Française. Rendez-vous cet après-midi avec Denis Podalydès, le comédien du français, le comédien au cinéma aussi. Il a été Sarkozy, il joue en ce moment un professeur dans le film Les Grands Esprits. Et puis il met en scène, dans la maison de Molière, Scapin, les fourberies de Scapin avec Benjamin Laverne. Alors on le retrouvera tout à l'heure en studio, Denis Podalydès, avec ses invités. Mais d'abord on va le voir en train de travailler, la salle Richelieu, en train de répéter avec son Scapin. Le premier rendez-vous, c'est avec Eric Ruff, le patron de la Comédie Française, qui est aussi le scénographe des spectacles de Denis Podalydès. Bienvenue dans le Grand Atelier.
J'ai une admiration profonde pour lui, je suis assez fier de le croiser de temps en temps.
Ça fait longtemps que vous êtes complice. On vous imagine un peu comme des frères ici à la Comédie Française.
On travaille très bien ensemble avec Denis, parce qu'on n'a plus grand-chose à s'expliquer. On s'anticipe beaucoup, mais on n'a jamais passé de vacances ensemble. On dîne extrêmement rarement ensemble, et même ce protocole-là nous fait rire quand on le fait. Donc on se côtoie au travail. Et je crois que les gens nous regardent, oui, plutôt comme un duo. Mais c'est très agréable, c'est un vrai complice. Si on a été au match un jour ensemble, il m'a emmené voir un match du Paris Saint-Germain, le jour où Zlatan a mis une aile de pigeon absolument extraordinaire, voilà.
Zlatan n'est pas impressionné par Zlatan. C'est normal pour Zlatan. Quand je joue avec mon club, je Zlatan des clubs. Quand je joue avec mon pays, je Zlatan des pays. Et quand ce sera la Coupe du Monde, je vais Zlataner la planète.
Il est comment dans un stade?
Il est sans doute plus expressif que dans la vie. Mais il me racontait qu'il lui était arrivé de regarder des matchs entiers, de ne pas les regarder parce qu'il lisait. Et il a passé des matchs entiers sans lever le nez, même sur une action, même sur la moindre rumeur. Voilà.
Mais au moins, il était là.
Absolument. Mon fils m'a dit, « Papa, Denis, il fait que des succès, alors. » Je n'ai pas su répondre à cette remarque. Parce que Lucrèce Borgia, parce que Cyrano de Bergerac, évidemment. Puis ensuite, il est très très chiant, parce que tout le monde le veut. Et qu'il n'a pas le temps d'ubiquité, et Dieu sait qu'il fait plein de choses à l'extérieur. Quand j'étais jeune acteur et que je l'ai rencontré, moi j'étais persuadé qu'ils étaient plusieurs. Quand je voyais tout ce qu'il faisait, Denis, je me dis, ils sont jumeaux, ils sont en train de nous faire un truc. Il y en a un qui est à la radio pendant que l'autre est en train de jouer, le troisième en train de faire du cinéma, donc c'est pas le même. Ensuite, j'ai compris que c'était le même, je me suis dit, ce type-là est d'une organisation militaire. Et les premières fois où il voulait me raccompagner en voiture alors qu'il était venu en vélo, que je lui demandais de me rendre ma veste parce qu'elle était trop grande pour lui, j'ai compris qu'il était un peu professeur tournesol là-dessus. Et donc je me suis dit, mais d'où vient donc cette capacité à tout faire en étant aussi apparemment désorganisé? Et Denis a cette qualité folle. Il passe la porte, il est là.
Vous m'emmenez où là, Eric Ruff?
Mais sur le plateau. Nous devons... tenter de finaliser cette scène du sac.
On arrive sur le plateau. On pousse des rideaux. Bonjour.
Bonjour.
On fait attention au câble. Voilà, Denis Podalydès est sur scène. Debout.
En chemise à carreaux.
Chemise à carreaux, jean.
Jean. De son pistolet que j'ai tiré de votre père.
Et son scapin en costume, Benjamin Laverne.
Voilà.
Non, 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 fire!
Tout d'un coup, il y a une échelle, là. Vous avez un échafaudage qui monte jusqu'au cintre.
Donc, il y a un tout petit voilà. espace de jeu, là.
Oui, absolument. C'est pas plus loin. On a suivi cette chose-là. Molière avait un tout petit espace de jeu. Il a écrit ça en sachant qu'il n'avait que ce périmètre. Donc, on a essayé de se remettre dans ce périmètre-là pour...
Donc, on joue serré.
On joue serré. Et les acteurs adorent être à l'avant-scène.
Oui, puisque la scène est occupée par donc un grand échafaudage, par des échelles.
Oui, c'est comme
des palissades.
Oui, c'est comme un port à marée basse, là où justement comme on serait dans un port moderne, ce serait là où il y a de l'huile de moteur, où les gens ne vont pas se baigner, ou voilà, où il y a des vieux outils rouillés qui traînent, comme sur une digue un peu abandonnée, voilà.
Non mais c'est bien, c'est que tu l'inventes, c'est juste quand il te dit tu devrais te mettre un petit peu plus loin.
C'était que le bout du bâton qui était sûr, jusque monsieur.
18h, fin de la répétition. Et je suis Benjamin Laverne, scapin. Alors je vous ai suivi là pendant 4 heures, et j'ai vu à quel point vous vous donnez. Il n'y a aucune économie de votre part, vous semblez donner tout.
Ben, ça peut être... parfois un peu dangereux dans le sens où on peut perdre sa voix. Moi, je sais que j'ai un peu la voix fragile si j'y vais à fond tout le temps. Et donc, j'ai pu parfois, en répétition, les dernières semaines, me frustrer parce que justement, j'étais un peu grillé avant la fin de la répète. Et à la fois, on est obligé de voir ce que ça sera vraiment dans le rythme. Parce que le rythme, ça compte énormément. Et que surtout, c'est en vraie condition qu'on trouve, qu'on adapte, qu'on intègre, pardon, la technique. Parce que là, il y a des moulinets, voilà, il y a pas mal de techniques, une trappe. Et donc, si on le fait au ralenti, on se rend pas compte du vrai timing et de l'énergie que ça demande. Donc, on est obligé de passer par d'y aller à fond. Et il y a aussi l'urgence de devoir trouver, parce qu'on a la date. Voilà, on sait que dans une semaine, on a du public. Et donc, il y a quand même une petite horloge là qui tourne dans la tête de tout le monde. Et donc, il faut être efficace. Voilà.
Il dirige comment alors, Denis Podalydès, lui, l'acteur qui est aussi metteur en scène?
Déjà, il est très très bienveillant. Il est très client. Donc, c'est-à-dire qu'il va être très preneur de ce qu'on propose. Il va vraiment composer avec qui on est. Il m'a tout de suite dit, Scapin, il faut pas l'atteindre. Scapin, c'est toi. Donc, il y a un Scapin qui était Robert Hirsch, un Scapin qui était Toreton, et il y a un Scapin qui est toi. Donc, déjà, part de complètement qui tu es. Donc, ça, c'est déjà très décomplexant. Et après, on cherche vraiment à deux. Il est vraiment ouvert à la proposition. Et surtout, on essaye plein de choses différentes. Il n'a pas du tout envie de regretter après. Donc, on va essayer plein de versions d'une scène. Et alors, c'est drôle parce qu'il a... Voilà, c'est un acteur metteur en scène. Donc, il a les voix en tête. Il joue les situations dans sa tête avant. Et parfois, ça lui sort, c'est-à-dire qu'il le joue. Et il sait qu'il ne faut pas forcément nous montrer. Mais c'est un acteur qui met en scène. Donc, forcément, il a aussi... Il bouillonne d'idées, de jeux. Qu'il a envie d'appliquer et donc que parfois on s'amuse à jouer les scènes avec lui et il dit tout de suite non mais faites je veux pas vous montrer faites pas ce que je dis donc mais c'est complètement normal
et votre amitié à la ville si je puis dire ou votre camaraderie de comédien à la Comédie Française ça vous sert ici dans ce capin dans le rôle qu'il a et le vôtre?
Oui, parce que je crois vraiment que il faut avoir confiance en soi pour ce genre de rôle. Moi, j'avais la chance de me sentir aimé. Et je sais que pour un acteur, c'est hyper important de sentir aimé déjà avant de commencer à travailler. Après, on est dans la mine, hein, on travaille. Enfin, si, dans la mine, non, j'exagère. On va se dire, oh là là, il exagère. Je veux dire, on a les mains dans le cambouis, quoi. Genre, on y va et on cherche, on creuse, on doute. Et donc, quand il me voit douter, il fait, oh là là, tu doutes. Je fais, non, t'inquiète pas, Denis. Et quand c'est lui qui doute, je vois, il fume de la tête, il a les cheveux en l'air. Je fais, ça va, Denis, t'as confiance? Il me dit, oui, t'inquiète pas, je suis dans mes pensées. Donc, en fait, on s'inquiète tous les deux de l'état de l'autre. Il y a un côté, on se lâche pas, hein, tu me lâches pas. Hein. Donc voilà, c'est un partenariat, quoi.
Prends-moi la main, s'il te plaît.
We're walking in the air. grand atelier de Denis Podalydès.
Comment va monsieur le metteur en scène ?
À l'instant même, très très fatigué, comme après une longue répétition, 4 heures de répétition cet après-midi sur la scène du Cercle des Faubourgs de Scapin.
C'est pas vous qui étiez sur scène ?
Non, mais dans la salle, je dépense une énergie psychique, même si je suis au fond d'un siège sans rien dire, j'ai l'impression de brûler sur place. C'est pas que je suis mort dans... Je suis toujours normalement anxieux, mais la concentration que parfois ça demande, c'est vraiment très fatigant, et l'attention à tout. Parce que ce que j'aime dans une scène, c'est que tout entre en résonance, le jeu d'acteur, le décor, le costume, la lumière, le son, le texte, que tout ça aille ensemble et de soi.
Je vous ai vu physiquement réfléchir, effectivement, pendant 4 heures. Observer et réfléchir. Il devait se passer mille et une choses dans la tête de Denis Podalydès.
Oui, en plus, sur une pièce comme ça, il y a quantité de questions qu'on essaie d'évacuer, puisqu'on sait que monter les Faubourgs de Scapin à la Comédie Française, il y a une sorte de devoir d'exemplarité, de réussite, d'efficacité, de comique. Tout ça est très... pompant, mais bon, c'est pas ça qui m'occupe. Non, c'est penser à toutes les petites conséquences pratiques et tous les gestes qu'implique une scène, tout ce que ça implique pour l'acteur et pour tous les autres départements du spectacle. En plus, un acteur, Benjamin, qui est d'une palette infinie et d'une richesse de possibles, parfois étourdissants, qui fait que comment choisir entre tout ce qu'il propose. Il y a un tel désir de théâtre, un tel goût du théâtre.
C'est jubilatoire, visiblement, pour lui, la scène.
Ah oui, 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 c'est son élément. C'est là où il vit, c'est là où il se sent le mieux. Donc je me creuse pour être sûr que nous avons envisagé tous les possibles. Donc je passe en revue des quantités de possibilités, même y compris les plus absurdes. Et en plus, dans ces comédies-là, le spectacle prend à la toute fin des répétitions. Il faut pas rater ce moment-là où quelque chose coagule. Et c'est souvent très 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 tardif. On les répète assez longtemps avant pour se mettre en condition, pour créer des atmosphères, mais je me rends compte que j'ai tout de détricoté de tout ce qu'on a pratiquement fait en juillet.
Je suis en train de penser à ce que votre maître, Michel Bouquet, vous disait de Molière. Et je vous entends l'imiter en train de dire...
J'ai écouté dans des cassettes de cours du conservatoire à l'époque où j'étais élève. Vraiment, j'ai écouté même étudiant ces phrases. Il disait Molière, faut le faire en gueulant. Et ça m'a beaucoup surpris parce qu'on parlait beaucoup avec Benjamin de ne pas forcer le trait, d'essayer de. On ne cherchait pas un jeu purement masqué, codifié. On cherchait une sorte de moyen terme. Et on se disait, mais peut-être il y a des scènes comme ça qui peuvent se faire assez doucement, assez mezzo voce. Et je tombe sur cette phrase, ça se joue en gueulant. Et puis je reprends les scènes, et puis en montant un peu le niveau vocal, je me rends compte qu'elles apparaissent davantage, elles prennent davantage quand elles sont soutenues, quand elles sont vocalement engagées. Parce qu'en fait, il y a une générosité de jeu réclamée par ce texte, et une telle architecture du texte, et qui supporte aussi l'engagement vocal et physique. Ça le supporte et ça le demande, d'ailleurs.
Il disait aussi, et ça je me souviens de ce que vous aviez écrit sur lui dans votre livre Voix Off, il disait aussi, c'est très difficile, Molière.
Oh, oui, oui, c'est très difficile. Ben, il doit se le dire en ce moment, c'est très, très difficile. J'en ai parlé avec Michel Faux récemment, qui le met en scène dans Tartuffe, où il joue Orgon, qui est quand même un rôle aussi extrêmement difficile. Alors, un jour, il dit, c'est de la tragédie. Et le lendemain, il dit, c'est du très tôt. C'est une pièce étrange, elle est vraiment faite de briques et de brocs. Et pourtant, il y a de la splendeur. Et pourtant, dans le rôle de Scapin, il y a la réminiscence de quantité de rôles. Parce que c'est un autoportrait. Et donc, il y a des moments où c'est presque clairement Don Juan qui apparaît. Ça peut être Tartuffe aussi, des ombres comme ça, de tous les rôles de Molière. Donc il y a une certaine profondeur dans la pièce qu'il faut trouver par instant. Benjamin, on sent que ça a été un enfant heureux et qu'on a regardé grandir, pousser, et qui s'est beaucoup amusé, qui a un don d'amuser les autres, qui est très grand. Alors ça, je pense que ce sera un Scapin très lumineux, très solaire, assez jeune, assez beau, flamboyant. J'espère, voilà. Bon, dans quelques jours, on saura.
Oh,
Benjamin Laverne. Vous faites très bien le chant tyrolien.
Le yodel. Voilà, je peux pas lâcher la voix cassée, je vais pas vous le faire. J'avais eu l'occasion d'apprendre ça au conservatoire. Je me suis dit, je vais le ressortir, là, c'est l'occasion.
Ah oui, vous faites les chevaux aussi, ça donne quoi?
Ah, le cheval, oui.
Et ça, vous l'aviez appris enfant?
Je sais plus, j'ai un pote qui me l'avait appris, je sais plus. En fait, là, ce capin, c'est aussi l'occasion de ressortir tout ce qu'on sait faire. Les azones. Je vais faire la goutte d'eau aussi. Ça va être l'occasion de faire tout, c'est un peu jacouille la fripouille. Je vais faire tous les sons que je peux, je vais les mettre dans le spectacle.
Mais on dit toujours qu'il ne faut pas cabotiner quand on joue ce capin, mais finalement on peut.
Et là, c'est l'occasion un peu de... J'ai l'excuse de jouer ce capin pour cabotiner. Donc je ne vais pas m'en priver.
Benjamin Laverne.
Oui.
Merde.
Bah, je prends. J'ai toujours envie de dire merci, mais on n'a pas le droit. Je prends, monsieur.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Denis Podalydès, bienvenue en studio.
Oui, bonjour.
Ça y est, on sort de votre maison, on vous sort un petit peu des répétitions. Oui. Ça commence le spectacle mercredi, donc c'est pas mal aussi. Ça vous fait penser à autre chose d'être avec nous aujourd'hui, hein?
Mais pas du tout, justement.
Ah.
Je suis arrivé ici, peut-être je devance ce que vous alliez dire.
Allez-y.
Je retrouve Pierre Bergougnoud.
L'un de vos invités, l'écrivain Pierre Bergougnoud.
Exactement. Et nous parlons immédiatement de ce capin. Et il attire mon attention, peut-être il peut en parler lui-même, sur le côté canaille, brigand de ce capin, et le côté même dangereux. Et ça, depuis tout à l'heure, c'est en train de... Parce que on en a parlé avec Benjamin, mais peut-être dans les derniers jours qui nous restent, c'est peut-être la petite, la donnée qui nous manque encore un peu et qui peut ombrer le rôle par moment. J'ai trouvé ça très, très intéressant.
Il est en face de vous, Pierre Bergougnoud, je vous salue.
Bonjour.
Alors vous voyez, vous avez parlé de Scapin et de Molière, que vous connaissez bien, vous qui êtes professeur ou qui fut professeur, vous enseignez toujours?
Non, c'est fini.
C'est terminé.
Oui.
Mais Denis a aussitôt sorti son iPad et il a pris des notes tout en écoutant le reportage. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire encore et nous dire sur Scapin et peut-être aussi sur ce Scapin qui est monté, là, vous avez entendu la tonalité, la couleur de ce spectacle à venir.
C'est leur tour, c'est son tour. C'est à eux de ne pas démériter, de continuer de donner âme et souffle à Molière, hein, cette immense figure qui a été Molière et qui a quatre siècles d'ici ou peu s'en faut, continue de nous parler, apporter au jour des choses où nous reconnaissons une fraction significative de notre humanité. C'est ça les acteurs. Ils ont une responsabilité plus que pesante, écrasante.
Vous savez que vous augmentez le stress.
Mais j'espère bien.
Non, mais oui, il a raison. Il me disait tout à l'heure, il me citait, je ne sais pas dans quel livre de Freud, où il assimile les acteurs, les criminels.
Les bêtes de proie, les femmes. Je peux citer Freud. Les femmes qui ont évolué vers la beauté. C'est ainsi que s'exprime cet Autrichien. Et s'y ajoute encore, je crois, outre les animaux de proie, les chats et, pour terminer, les grands criminels. Ils occupent une certaine position qui leur permet de se soustraire à ce qu'on pourrait appeler la commune mesure. Et quelle que soit la profondeur du trac auquel ils disent être sujet, eh bien, Denis Podalydès n'en possède pas moins ce suprême degré, la capacité de briser le carcan, les chaînes de ce qu'on appelle l'identité, pour donner corps à des êtres qui parfois peuvent lui ressembler, mais parfois, je l'espère, en tout état de cause, je le crois, à des figures aussi inquiétantes que celles, par exemple, de l'ancien président Sarkozy.
Qu'a joué à l'écran, Denis Podalydès.
C'est ce que je voulais dire.
Eh bien, on va vous retrouver dans ce grand atelier de Denis Podalydès, Pierre Bergougnoud. On va aussi faire la connaissance de l'historien Johan Chapoutot. Il est l'un de vos invités. Il y aura aussi l'ancienne ministre du Logement du gouvernement Valls Emmanuel Cos, qui a présidé le mouvement ACT UP. On parlera certainement de militantisme avec elle. Et la musique aura aussi une place de choix avec votre invité Christophe Coin, qui est violoncelliste, qui est gambiste. Vous avez souvent travaillé avec lui, notamment dans Le Bourgeois Gentilhomme de Nippodalides, et vous travaillerez encore certainement avec lui. On va l'écouter, Christophe Coin. Il est venu avec son violoncelle et il va nous jouer Giuseppe Maria d'Alabaco, Un Capriccio. Christophe Coin avec nous dans le grand atelier de Denis Podalides. Venez nous rejoindre, monsieur Coin. Je précise que vous êtes violoncelliste, gambiste, chef d'orchestre, pédagogue. Vous enseignez le violoncelle baroque au Conservatoire de Paris depuis 1984. Je vous installe juste à côté de moi, si vous le voulez bien. Et puis la viole de gambe à la Schola Cantorum de Bâle. Et vous aimez ce musicien particulièrement, Denis Podalides?
Oui, C'est Olivier Mantei qui me l'a fait rencontrer.
Qui est l'un des patrons des Bouffes du Nord à Paris.
Voilà, parce qu'on envisageait le bourgeois gentilhomme, et il m'a dit, je pense que tu pourrais t'entendre avec Christophe Coin. Je connaissais le nom, je l'avais entendu jouer, mais pas beaucoup. Et puis on s'est rencontrés sur ce spectacle, et on est devenus, au fil du travail, vrai partenaire de... Il a tout à fait contribué à la mise en scène, pas simplement à la musique de scène, aussi parce que c'est une œuvre dans laquelle la musique a une véritable fonction dramatique. Ce que Molière ne réussit pas dans toutes les comédies-ballets, où la musique reste au niveau de l'intermède et ne prend pas corps avec la comédie. Mais là, avec l'invention assez géniale de Monsieur Jourdain, la musique entre véritablement dans le jeu. Donc on a travaillé de façon à ce que les rapports entre musique, danse, chant et comédie soient organiques.
Christophe Coin, vous êtes un chercheur, quelqu'un qui travaille sur le baroque. On est toujours dans un laboratoire quand on travaille sur la musique baroque, mais vous aimez aussi, au-delà de la musique que vous pouvez retrouver, rechercher, travailler avec, entre autres, votre quatuor Mosaïque. Je précise d'ailleurs que vous sortez un disque, les quatuors de Beethoven, dans quelques jours. Vous aimez retrouver des comédiens, travailler avec des metteurs en scène. En ce moment, je sais que vous avez envie de travailler avec des danseurs. Vous frottez à d'autres arts.
Oui, c'est de toute façon, je pense, la prérogative que recherchaient aussi Lully et Molière quand ils travaillaient ensemble, cette espèce de spectacle total. Et l'avantage avec Denis, c'est qu'on a un petit peu le même rythme. C'est-à-dire qu'on est...
Frénétique.
Oui, mais assez lent finalement, où on essaye beaucoup de choses et puis les choses se décident très tard, ce qui rend les compagnons parfois un peu anxieux, mais c'est vrai qu'il y a une cristallisation au dernier moment qui se fait, enfin on espère en tout cas.
On espère, oui.
Et c'est très agréable de travailler avec lui pour ça.
Vous êtes le principal artisan du renouveau du violoncelle ancien en France. Est-ce que vous cherchez dans la vie à rendre le passé vivant? Est-ce que c'est une quête? Est-ce que c'est une fin?
Je trouve que la bonne musique est toujours d'actualité. Il n'y a pas de musique ancienne, en fait. Donc, je n'ai pas fait le choix de travailler dans la musique d'aujourd'hui, dans la musique contemporaine, que j'admire beaucoup les gens qui le font. C'était une vocation, mais j'ai choisi peut-être de faire revivre des pages moins oubliées ou moins connues et comme ce petit caprice.
Oui, je ne connaissais pas, moi, ce compositeur italien.
Oui, c'est un Italien qui a fait une grande partie de sa carrière en Allemagne, en fait, et qui est revenu après, à la fin de sa vie, de sa longue vie, se réinstaller dans son pays, Valpolicella, mais qui a écrit beaucoup de sonates, de jolies pièces pour le violoncelle.
Vous avez trouvé où cette partition?
Ça se trouve dans des bibliothèques, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont maintenant rééditées. Comme beaucoup plus de monde s'occupe de faire revivre ce répertoire, on a la chance de pouvoir avoir accès à ces partitions plus facilement que quand j'étais étudiant moi-même.
Ça vous fascine, ça, le côté chercheur du musicien baroque?
Ah,
et
oui,
du musicien,
oui.
Qui s'occupe particulièrement, même si vous ne dites pas ça, Christophe Coin, de musique ancienne, Denis Podalydès?
Oui, moi, une chose qui me touche beaucoup, c'est cette faculté d'aller chercher dans le passé, non pas dans un mouvement de sacralisation, qui voudrait dire « c'était beaucoup mieux avant », mais ce qui, dans le passé, a, comment dire, ce dont nous sommes faits, qui font que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, et cette constante lecture du passé, mais qui est présente, qui est mémoire, en fait, qui est donc active, qui n'est pas patrimoniale, muséale, mais qui fait que ces œuvres, nous pouvons témoigner de ces œuvres du passé, parce que finalement, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que aussi ces choses-là ont eu lieu, et qu'ils luttent contre une certaine faculté d'oubli. Ça me ramène, moi, à ma grande question à la comédie française. Que faut-il préserver, distinguer, préserver et conserver, ressusciter les morts, parce que il faut aussi témoigner de cela pour ce que nous sommes. C'est un peu confus ce que je
ben
dis,
non,
mais je lis ça et je suis toujours infiniment touché par les écrivains comme les musiciens qui ont organiquement la sensation d'un ancien monde et comment cet ancien monde s'est transformé dans la charnière des mondes, qui
on
travaille
de
à cet endroit-là, comme
avec
les grands mémorialistes, comme Saint-Simon, Proust, Faulkner, dont Pierre est un grand témoin. D'ailleurs, par exemple, l'immense continent qu'est Faulkner, moi, c'est Pierre Bergoglio qui me l'a ouvert, comme Christophe m'ouvre tout le continent musical du XVIIe. C'est extrêmement riche. Johann Chapoutot pourra témoigner
l'historien,
de ça.
Oui, mais je donnerai la parole aussi dans un instant à Pierre Bergoglio. Je voudrais, Christophe Coin, parce que je dois vous libérer, vous avez rendez-vous sur une antenne amie à Radio France. Qu'est-ce qu'on va écouter ?
Un compositeur aussi très méconnu, que Denis a entendu un petit peu grâce à ce spectacle qu'on a fait sur Mallarmé. C'est une pièce aussi qui se rapporte, comme le Caprice que je viens de jouer, aussi un peu au carnaval, à Harlequin, peut-être l'espièglerie de Scapin aussi. Et ça s'appelle « Enterrement au carnaval » de Félix Battenchon.
Ah oui, Battenchon.
Christophe Coin, qui, je vous le précise, sort un disque dans quelques jours, Les Quatuors de Beethoven, avec le Quatuor Mosaïque.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Denis Podalydès, est-ce que vous avez beaucoup de livres de Pierre Bergoglio dans votre bibliothèque chez vous ?
Je crois que j'ai tout.
Il vous faut beaucoup de bibliothèques alors ?
Oui, ça prend un rayonnage.
Bah, vous avez pris un folio là,
oui,
c'est Miette.
Oui, parce que je l'ai repris, je
Miette
le relis
au
de temps en temps. Miette, peut-être on peut l'apparenter à un cœur simple, non ? Quelque
oui.
chose comme ça.
Oui, Pierre Bergoglio,
oui.
Oui. Oui, un portrait, oui. Des figures qui... pour humbles qu'elles soient ou apparaissent de prime abord, peuvent sembler aux vivants que nous sommes mémorables, dignes d'être préservés de l'oubli.
C'est tout vous, ça ?
En partie. C'est le projet grandiose qu'un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelait Jules Michelet, qui vivait au XIXe siècle, avait formé, de donner la parole à ceux qui jamais ne l'avaient eue. Et il se regardait comme tenant la verge d'or, Virga Aurea, et que toutes ses voix amies depuis toujours résonnent et se mêlent à la nôtre et l'escortent, l'enrichissent, la prolongent à la fois vers l'avant, nous avons nos fondations, mais vers cet avenir où nous pourrions marcher enfin réunis tous ensemble. Des choses un peu mystiques.
Mais quel beau projet de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ou ceux qui ne l'ont pas eu.
C'est
le projet d'une vie.
C'est par là qu'arrivent les révolutions. Faulkner est celui qui rend la parole à ceux qui ne l'ont jamais eue. Ceux qui parlent sont les puissants, les doctes, les riches, les savants. Depuis toujours, la littérature s'est fait longtemps l'interprète d'une mince fraction installée dans la puissance et l'honneur. Et ceux qui, Molière en est, révolutionnent l'idée qu'on se fait de la littérature, donnent la parole à ceux qui jamais ne l'ont eu, ou mettent en scène le fait qu'ils en sont dépossédés. Ça me gêne de m'avancer sur ce terrain en présence de Denis Podalydès. Je suis intimidé.
Non, non.
Pierre. J'ai le trac.
Ça, c'est alors là. Non.
Molière met en scène ce personnage extrêmement redoutable, cet acteur qui est Don Juan, tourne en dérision un ego de paysan, courtisant simultanément deux ingénues villageoises. La littérature a un rôle à jouer dans la vie, la porte dans ce registre qui n'est que d'elle, celui d'une clarté seconde à laquelle nos vies n'atteignent pas, et éventuellement émettre de certaines réserves sur l'ordre des choses, l'ordre établi, et suggérer soit implicitement, soit ouvertement, d'y apporter réparation, remède, voire, je pense à la littérature française, révolution, pas moins.
Denis Podalydès.
Et pour donner voix à ceux qui n'ont pas la parole, il faut un style, et il faut ce qui s'appelle la littérature. Ce n'est pas si facile de donner voix à ceux qui ne parlent pas, parce que soit on les singe, on fait du folklore, on les caricature alors même qu'on leur donne la parole. C'est une chose qui est vraiment très difficile, y compris théâtralement, même si les paroles sont écrites, de faire en sorte que ce soit de la parole vivante. Tout l'art du théâtre, c'est ça, faire que ces paroles ne soient pas folkloriques. Et en littérature, il faut un style, il faut le style de Pierre, pour que ces figures, j'essaie de retrouver une phrase dans laquelle, par exemple, voilà, une petite phrase très courte.
Extraite de Miette.
De Miette. Jeanne était rieuse, très bonne, prime sautière, sans l'ombre du nombre. Il y a de très belles oppositions dans ce livre entre deux frères, Adrien et Baptiste. L'un est tout en robustesse et tout en révolte, et l'autre a découvert le pas de vis, par exemple. Des choses magnifiques au début du livre. Et là, c'est l'opposition entre le personnage de Jeanne, qui est toute lumineuse, et Miette, qui est quelqu'un qui ne s'aperçoit pas sur les photos, quelqu'un qui semble n'avoir jamais même vécu, ou que les photographies, les récits n'ont pas réussi à capter la trace. Et Pierre Bergonu, avec le style, son style va capter cette miette, magnifique d'ailleurs comme nom, il va chercher cette miette et il la fait accéder à l'existence, et pas simplement l'existence littéraire, mais une existence, la personne nous est donnée.
C'est intéressant ce que dit Denis Podalydès, Pierre Bergouniou, sur votre art du trait, finalement. Vous travaillez un peu comme un peintre qui fait apparaître des figures.
Je suis en train de réfléchir. Oui, d'une certaine façon, on peut mettre dans le même sac ce qu'on appelle les beaux-arts et aussi la littérature, en ce que la sorte de... Enfin, la vie que nous menons ne nous permet pas véritablement de trop lever les yeux et d'inventorier l'immensité, la splendeur, l'horreur éventuellement de ce qui nous est donné pendant le temps de l'intermède. Et il est besoin de spécialistes, de virtuoses, des sculpteurs, les peintres, les acteurs, pour dire « le monde est beaucoup plus riche et beau que vous ne le supposez. Regardez donc ce tableau. L'air atmosphérique est beaucoup plus fertile que... » On vient d'en avoir une démonstration éclatante, un gars avec deux bouts de planche et un archer. Mais enchante l'air qui non seulement nous tient en vie, mais peut porter jusqu'à nos oreilles des sons si beaux. qu'on voudrait arrêter le temps pour l'écouter toujours. Oui, nous souffrons une sorte de déficit ou de carence de sens parce que nous sommes impliqués continuellement dans les tâches de tous les jours, jusqu'y compris lorsqu'elles ont rapport avec l'art, répéter, mettre en scène. Et les beaux-arts, la littérature, le théâtre enrichissent notre monde, donc accroissent, si l'on peut ainsi parler, notre être, notre présence au monde. Et il y a une chose qui ne trompe pas, c'est notre joie. La joie vient ratifier, en quelque sorte, sanctionner toute espèce d'accroissement, d'effusion, tandis qu'à l'inverse, la tristesse, le désespoir marquent les pertes, les carences, les empêchements, la destruction.
J'ai entendu des mots qui doivent vraiment faire réagir le comédien Denis Podalydès dans ce que vous venez de formuler, Pierre Bergoglio. J'ai entendu le mot révolution à deux reprises, j'ai entendu l'adjectif vivant plusieurs fois, et puis le mot joie. Tout ça, ça forge un acteur.
Oui. Moi, ce qui aussi... Qui
c'est votre matériau, Denis Podalydès.
Oui, j'aime aussi la façon, la subversion qu'introduit Pierre. Je fais c'est un peu une transition, où je parle de ce bréviaire de littérature, où la façon de c'est un tableau bréviaire, donc assez bref, de littérature...
De Pierre Bergoglio,
montre
hein.
À chaque fois ce en quoi les écrivains ont été subversifs. Et la capacité de lutte, de résistance, il y a souvent d'ailleurs dans les personnages évoqués par Pierre, à l'image de son Limousin natal, quelque chose qui résiste, qui est rocailleux, qui est même ingrat, qui ne donne pas à profusion, et qui rappelle toujours une sorte de lutte profonde des êtres pour parvenir à l'existence, pour se faire reconnaître, que cette rumeur du peuple, il fait sourdre même une certaine colère. Il y a une colère chez des écrivains comme Pierre Bergoglio qui ont à la fois, c'est jamais un regard nostalgique sur le passé, c'est plutôt un regard politique, subversif, et dont un artiste comme moi, qui est à la Comédie Française, ne doit jamais se défaire. Comment, dans une grande œuvre comme Les Fourberies de Scapin, justement, elle est grande œuvre dans ce qu'elle peut avoir encore, ce qu'elle, il me parlait du côté canaille du Scapin, du voisinage des acteurs et des grands criminels, voilà cette capacité d'inquiéter le présent, de secouer quelque chose de manière très très vivace. Dans La Grande Douceur de Pierre, il y a quelque chose comme ça qui n'abdique jamais. Et dans ces personnages, il n'abdique jamais.
J'ai l'impression qu'il vous réveille et qu'il vous secoue et qu'il vous amène à cette question
de littérature,
très intéressante.
C'est quelque chose qui m'a frappé. Il y a une phrase où il dit « La littérature classique est largement surestimée. »
Le théâtre classique est surévalué, vous écrivez.
Est surévalué parce qu'il distingue tout à fait, je crois l'être, la vivacité réelle de cette littérature de l'usage académique qu'on en fait.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Pierre Bergoglio, quand vous écrivez « Le théâtre classique est surévalué », vous dites notamment « Il est trop présent dans l'enseignement, ce théâtre classique », ou alors « On l'enseigne mal » ou « On en parle mal ». Quel est votre propos, Pierre Bergoglio ?
On y serait demain.
Oui.
Il y a eu un usage académique du théâtre classique, et en contrepartie, on n'a pas peut-être mesuré bien la portée de certaines pièces de Molière qui font frémir, Don Juan fait trembler. C'est quelque chose d'extraordinairement redoutable que cette figure que Molière pousse sur les planches, que seul le surnaturel, Dieu sans doute, puisse l'arrêter. Et à certains égards, il me semble avoir une étroite parenté avec les acteurs. En tant que... Oui, j'ai entrepris le pauvre Denis, quand à peine il passait la porte de la maison de la radio, sur cette lecture que je venais de refaire de Freud, où j'avais découvert que, il n'y a pas si loin que cela entre les grands criminels et les acteurs, parce qu'ils occupent dans les sociétés une position qui rend précaire celle des profanes, du commun, des mortels. Donc, le théâtre classique a fait l'objet d'un usage poudreux, poussiéreux, académique, non pas seulement à la Comédie Française autant jadis, mais dans la salle de classe où nous attendons que des gens qui sont payés pour se faire nous persuadent qu'il existe quelques rapports entre les livres que nous lisons et la vie que, paraît-il, nous avons. Et donc, il me semble qu'il n'est pas mauvais de porter un regard rafraîchi, d'essayer sur ce legs du passé et de distinguer catégoriquement ceux qui peut encore parler aux vivants que nous sommes, les forts Brice Capin, les grandes pièces de Molière, Shakespeare ou Sophocle, à mes yeux.
Vous êtes très fan de Shakespeare. Hein?
Oui. Mais comment ne pas ? Denis, s'il te plaît.
Oui.
Le plus grand, pour toi.
Mais c'est Shakespeare, bon, bien sûr.
Ça n'est pas moi qui
Shakespeare dis. Contient absolument tout. Bon. C'est une totalité.
Molière, donc, avant le théâtre classique.
Essaie parfois de dépasser les catégories dans lesquelles on enferme, mais néanmoins, il est valet du roi, il est sujet, il est assujetti, il est même asservi, et il ne peut pas se défaire. Le pouvoir centralisateur de Louis XIV l'écrase totalement, se sert de lui, le ridiculise quand il le veut d'ailleurs, le fait frapper par des nobles, et Molière ne s'affranchit pas. Shakespeare a eu la chance de participer à un temps de telle trouble que sa liberté a pu s'exprimer. Molière ne s'exprime pas avec autant de liberté que Shakespeare.
Le centralisme a fait beaucoup de mal les genres, à la littérature, alors aux auteurs.
La France est ce pays où le moindre rat est policièrement administré. C'est d'un philosophe allemand barbu du 19e siècle. Et le théâtre français, entre autres choses, accuse le poids écrasant d'une autorité centralisatrice qui ne souffre pas la moindre objection ni le moindre murmure. Tartuffe est interdit, Molière sera enterré comme un chien à la sauvette. Shakespeare a mis à profit ces libertés éminentes que le peuple anglais, premier, je crois, de toute la terre, a conquises. Nos voisins britanniques sont ceux qui se posent les premiers la grave question de savoir ce que c'est que l'État. Quiconque se mêle de dire un mot à ce sujet dans le royaume de France se retrouve visé par une lettre de cachet et embastillé indéfiniment. Les principes de la littérature sont, excusez-moi, politiques.
On vous écouterait des heures, Monsieur Bergugno.
Monsieur Joss, je me borne à vous
dire lesquels. Vous devriez reprendre vos cours.
Mais ça me manque, figurez-vous. De temps en temps, je me sens d'humeur pédagogique et je m'étonne d'avoir pas en face de moi des gamins du genre de...
De Denis Podalydès.
Mais oui, j'aurais pu l'avoir comme élève.
Vous auriez aimé peut-être l'avoir comme
peut-être
élève.
Peut-être bien, oui, oui. J'aurais fait la morale, bien sûr, mais oui, bon, j'ai quand même bien aimé.
Ce jeune homme qui a fait une hippocagne et deux cagnes, si je ne m'abuse.
Trois
cagnes. Oui, voilà. Il aimait les études, il voulait être professeur.
Je ne voulais pas quitter l'école.
Le voilà, comédien. De Pierre Bergugno, vous pouvez lire ce bréviaire de littérature à l'usage des vivants. J'aime bien cette formule, à l'usage des vivants. Il est sorti chez Bréal. On peut toujours le trouver. Il est sorti au début des années 2000. Rentrez bien, non pas dans le Limousin, non pas en Corrèze, mais à côté de Paris, Pierre
dans
Bergugno.
Dans la grande banlieue de Paris, ville jolie. Je vous souhaite bonne continuation à tous les deux.
Merci à vous, Pierre Bergugno. On va écouter un groupe versaillais. Oui, Denis Podalydès vient de Versailles. Ce groupe, c'est le groupe non pas R, mais le groupe Phénix. Nouveau disque, écoutez.
I don't like it as it is. A disaster set out your.
Voilà un titre du nouveau disque qui va sortir du groupe Versaillais Phoenix. On va se retrouver avec Denis Podalydès dans son grand atelier. Il y aura un historien, Johan Chapoteau. Il y aura une politique, ancienne militante, qui fut ministre du Logement, certes, Emmanuel Cosse, mais aussi patronne, si je puis dire, de l'association ACT UP dans les années 2000. Dans un instant, les informations et puis tout de suite après, la suite du grand atelier.
A tout de suite, Vincent Josse, ce sera juste après le journal de 23h. Très belle soirée à tous et à toutes sur France Inter. Et pour votre début de nuit après le grand atelier, vous retrouverez Marie Sauvion pour la rediffusion d'une bonne tasse d'été. Ce soir, on vous met le feu tous au bal des pompiers, au programme les bals musettes, celui du dimanche évidemment, la valse, la java, le tango, avec quelques intervenants entre autres comme Jean-François Auranti, réalisateur du documentaire Retour au bal, et Virginie Garando, historienne et professeure de culture chorégraphique au Conservatoire de Paris. Et puis à 1h du matin, on se fait des films avec Guillaumette Audicino pour parler du cinéaste d'une ambition et d'un perfectionnisme peu commun. Il disait « Les choses n'arrivent jamais comme on croit, c'est le sujet de tous mes films ». C'est ainsi qu'il concluait ses conversations avec Michel Beaujeu aux éditions Actes Sud. C'est Claude Sauté et c'est ce soir sur France Inter.
Et nous sommes à nouveau dans le grand atelier de Denis Podalydès. Denis Podalydès qui m'a l'air heureux parce qu'il est entouré là d'autres invités, de plusieurs invités, et que cette compagnie, ça vous rappelle un peu la troupe. Vous êtes un homme de troupe, vous aimez les autres, Denis Podalydès.
Oui, je crois que aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en groupe, alors que j'aime volontiers la solitude. Je ne m'ennuie jamais quand je suis seul, mais j'ai toujours eu besoin pour réfléchir, pour travailler, de la présence de frères d'abord. Ça s'est passé entre frères, et puis ensuite dans la classe, et puis pour réfléchir tout simplement. J'avais besoin. La société est toujours quelque chose vers laquelle je tends, que j'essaie de comprendre, que j'aimerais parfois changer aussi, être dans l'action. Je suis constamment soucieux de la vie politique, c'est-à-dire au sens le plus banal, de la vie des autres dans laquelle je suis. Parce que je me considère comme un autre, en fait.
Vous êtes quelqu'un
un autre parmi les autres.
Vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec la littérature, avec ses livres, qui peut même faire du vélo ou du scooter avec un livre dans la poche,
oui,
voire
ça, c'est
à
délicat,
la main, dès qu'il y a un feu rouge.
Très, très difficile, ça.
Mais vous regardez les autres et vous regardez la société. Vous vouliez parler du militantisme avec Emmanuel Cosse. Bonjour, Madame la Ministre.
Oh, Vincent, vous avez dit que vous ne m'appellerez pas comme ça. Bonjour.
Alors, excusez-moi, Emmanuel Cosse, vous fûtes ministre du Logement, ouais, sous le président Hollande, donc ministre du gouvernement Valls. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui?
Rien.
Cherchez du boulot?
Ouais.
Vous lancez un appel, là?
Non, je ne suis pas là pour parler de ça.
Bon, on vous souhaite d'en trouver un rapidement. Vous avez aussi été présidente du groupe ACT UP, de cette association. À côté de vous, Emmanuel Cosse, un historien, Johan Chapoutot. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Vous avez écrit et répondu à des questions dans le journal Libération, notamment au mois d'août. Et Denis Podalydès est tombé sur une de vos interviews. On aura l'occasion de parler de sa réaction. Mais je voudrais d'abord replonger dans ce film avec vous.
Ça va?
Très bien.
Bonjour.
Bonjour. La surdouée de la famille.
Ah non, Odile, arrête.
Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non? Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28. Je te l'ai dit, non?
Ah bon? Mais une thèse sur quoi?
Sur rien.
Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça.
Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans.
Non, Odile, c'est pas du tout ça.
C'est pas du tout ça? Bon, bah alors vas-y, c'est quoi?
Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru.
Bah qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit ça.
Non.
Au lac de...
Paladru!
Mais, excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse, ce...
Non, personne.
Mais pourquoi t'as choisi ce sujet, alors?
Pour faire parler les cons.
Agnès Jaoui, Sabine Azéma, Jean-Pierre Bacri, dans On connaît la chanson d'Alain René. Vous aimez ce film, Johan Chapoutou, oui. Vous aussi, Denis Podalydès, nous aussi, Alexandre Steiger, Emmanuel Cosse et moi-même. Vous avez souvent entendu, vous, monsieur le chercheur, ton travail c'est quoi et ton sujet c'est quoi et ça intéresse des gens?
Alors non, parce que j'ai travaillé essentiellement depuis une quinzaine d'années sur un sujet qui est le nazisme et qui touche à des questions d'intérêt public, d'intérêt fondamental. Donc non, je me suis jamais heurté à ça. Ce qu'on m'a souvent posé comme question, c'est comment tu fais ? Est-ce que c'est pas trop glauque ? Est-ce que c'est pas trop pénible à la longue ? Mais voilà, j'ai des collègues médiévistes en l'occurrence qui travailleraient par exemple sur les chevaliers paysans de leur mille au lac de Paladru. Alors un, le lac de Paladru c'est très beau, c'est très joli, je vous conseille d'y aller, on peut s'y baigner, c'est très sympathique. Deux, les chevaliers paysans, c'est très important parce que vous savez que la société médiévale est divisée en trois ordres, en trois états, et on est soit chevalier, soit paysan, soit clerc. Et là, on a des chevaliers paysans. Hein, c'est important pour penser la société médiévale dans ses transgressions, dans ses reconfigurations. Donc, c'est pas un sujet idiot du tout. Hein, c'est un sujet vraiment très important.
Donc, Agnès Jaoui a bien fait de choisir ce
absolument.
Sujet.
Absolument. Ça fait parler les cons et puis ça cultive les intelligents.
Denis Podalydès, on est frappé quand on lit l'interview de Johan Chapoutou dans Libération paru cet été, parce qu'il parle justement de son rapport à l'histoire, mais aussi de son ras-le-bol à un moment de travailler sur le nazisme, du fait qu'il ait vomi un jour, n'en pouvant plus de travailler sur ce thème. Il parle d'une façon très humaine de son rapport à l'histoire.
Oui, c'est
Johan Chapoutou.
C'est m'a beaucoup touché le rapport très très vivant à l'histoire, le fait de pas essentialiser l'histoire, d'y travailler, de s'y loger, faculté de s'absorber entièrement dans cette discipline. Et puis aussi, oui, j'ai été touché par le parcours. C'est pareil, j'ai eu immédiatement un rapport d'identification, cette façon de parler du passé, de le travailler. J'ai senti aussi qu'il travaillait tellement cette matière mortifère du nazisme, de vouloir au moment où un enfant naît s'en défaire.
Et quand votre fille naît, vous dites je peux plus là.
Quand l'enfant paraît. Hein.
Ouais.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Bah, en fait, moi, contrairement à Denis Podalydès, j'ai pas de grande fratrie, je suis fils unique, donc les enfants, je sais pas ce que c'était. Et quand ma première fille est née, c'est vrai que, assister à un accouchement, tenir un bébé dans les bras, tout est remonté, en fait, de ce que j'avais lu du traitement des enfants sous le Troisième Reich. Alors, le traitement, on va dire, en termes d'eugénisme positif des enfants ariens, et le traitement plutôt négatif des enfants handicapés ou des enfants juifs ou slaves. Et tout est remonté, voilà. Et là, je me suis dit, non, c'est plus possible. Alors, mon éditeur, Gallimard, était un petit peu ennuyé parce que sortait à ce moment-là, La loi du sang, hein, qui était mon livre sur la normativité nazie, sur le droit et la morale nazie. Et mon attaché de presse était un petit peu embêté parce qu'elle me proposait plein de choses. Et je lui dis, mais François, je n'y arrive pas. Je ne peux pas parler de ça. Enfin, en ce moment, je ne peux pas. Parce que j'avais un bébé de 1 mois, 2 mois, 3 mois dont je m'occupais. Et bon, il y a une espèce de court-circuit de disjonction. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais je le savais déjà, à quel point ce que l'on fait quand on est universitaire n'est pas un métier. Hein, c'est une forme de vie. Et singulièrement, je trouve, quand on fait de l'histoire. Parce que l'histoire, c'est la vie. L'histoire, c'est pas le passé. L'histoire, c'est l'homme en tant qu'il est dans le temps. Vous voyez? C'est l'homme en tant qu'il est historique. On est les seuls animaux de la création à mourir, en fait. Tous les vivants meurent, mais nous le savons. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec les autres. Et le fait de savoir ça constitue notre conscience historique, notre conscience de notre historicité. On est dans le temps. Et on a un rapport particulier au temps. C'est ce que j'esquissais un peu dans l'interview. Le passé, je m'en suis rendu compte dès que j'étais petit, en parlant avec des personnes âgées.
Ah, vous aimiez parler, vous aviez de l'empathie pour les personnes âgées.
Oui, toujours. Enfin, vraiment, j'adorais mes grands-parents. Voilà, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une bidimensionnalité. Ils étaient là, face à moi, et il y avait avec eux, charrié par eux, toute la vie, tout le temps qui les avait constitués, tout le temps qui s'était sédimenté en eux. Et pour moi, mais dès l'âge de 3-4 ans, c'est une initiation à la métaphysique, en fait. Et au fond, c'est l'expérience peut-être philosophique par excellence, je trouve, d'être constitué comme un être historique et de savoir qu'il y a du présent, il y a du passé, mais que ce passé est présent.
Et voilà. Du coup, le petit garçon, en observant les personnes âgées, et notamment sa grand-mère, va avoir envie de charrier la mémoire et de devenir historien. Vous aviez une grand-mère qui a été importante aussi, Denis Podalydès, qui était libraire.
Oui.
Elle vous a certainement permis d'accéder à la littérature et d'être le lecteur fou que vous êtes.
Justement, dans l'interview, ce rapport aux grands-parents, ça m'a touché immédiatement.
Vous êtes reconnu, vous êtes identifié.
Je me suis totalement reconnu. J'avais même cité. On parlait de ce qui n'était plus, de ce qui est pourtant bien là, le passé. C'est ce que vient de dire Johan. Cette façon de me donner le passé dans sa dimension vivante, philosophique. J'ai l'impression que c'est mon obsession. La présence du passé, c'est là où je travaille, parce que j'ai aussi un métier, comme Alexandre, un métier de mémoire. On se colle à la mémoire la plus active, même la mémoire la plus bête. tête, apprendre par cœur. On est constamment, on dit aussi que le théâtre est un art du passé. Il est parfois en contradiction totale avec la société numérique, avec le tout image. Donc voilà, c'est ce que vient de dire Johan. Donc, mais c'est vrai que ma grand-mère, la bibliothèque de ma grand-mère, les livres qu'elle aimait, ma mère aussi d'ailleurs qui est professeur d'anglais, qui avait aussi sa bibliothèque, mais ma grand-mère exerçait une forme d'autorité patriarcale sur la maison. C'était le pouvoir centralisé, c'était Versailles. Et donc les choses prestigieuses me venaient d'elle, de sa collection de la Pléiade par exemple, dont j'ai en partie hérité, que j'ai toujours dans ma bibliothèque. Ça a construit un imaginaire dont les fondations étaient dans un passé immémorial, mais qui était pour moi très très vivant.
Je me tourne vers Emmanuel Cos. Vous êtes fille de kinésithérapeute, et très jeune, vous devenez une militante. D'ailleurs, il y a une archive qui le prouve. Vous connaissez cette archive, bien sûr, mais peut-être pas Denis Podalydès et ses autres invités. Vous êtes adolescente, et voilà ce que vous dites à la télévision.
Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Alors, pourquoi vous êtes descendue dans la rue ?
Parce qu'on a des gros problèmes dans les lycées. Oui. On n'a pas de locaux, les locaux sont dans un état pitoyable. On n'a pas assez de profs, pas assez de pions. On n'a pas d'infirmières, on a des classes à 40 élèves. Oui. C'est impossible d'étudier. On n'a aucun droit d'expression, toujours censuré, et on en a assez.
Le Club Dorothée, Emmanuel Cos. Alors, on vous sort souvent cette archive, mais Denis Podalydès, c'est merveilleux. Il faut imaginer Emmanuel Cos avec une crête comme ça. Vous étiez punk.
Ouais, pas tout à fait quand même.
Vous dites ouais comme l'adolescente que vous étiez.
Non, mais j'étais, ouais, c'était la mode de l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, une émission de jeunesse faisait de la politique.
Oui, il y en a plus ?
J'en sais rien, mais je me rappelle très bien, parce que j'avais 15 ans, j'étais en seconde, c'était le mouvement des lycéens, donc à la fin des années 80. Et on avait reçu cette invitation, donc on y avait été, on était 5, et c'était extrêmement troublant d'être invité par cette émission sur un mouvement lycéen qui était très lié, en effet, aux inégalités scolaires, notamment sur les manques de moyens. C'était un mouvement qui était venu de la Seine-Saint-Denis déjà à l'époque. C'est-à-dire quand même, là je parle, on était en 89 ou 90. Et c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à militer, et puis je me suis retrouvée à m'exprimer, mais j'étais pas la seule.
Il y avait un terrain politique militant dans la famille Cos ?
Oui. Ma famille, que ça soit mes parents et même au-delà, c'est une famille très engagée, pas militante, mais très engagée.
Dans un parti ?
Non, justement, très engagée. Bon, ça fait beaucoup rire, mais comme c'est écrit, je le dis avant que vous me le rappeliez, j'ai été élevée avec portrait de Mao Tse-Tung. À la maison, Che Guevara. Mes parents étaient très engagés suite au coup d'État au Chili, mais c'était des gens qui n'étaient, c'est toujours des gens, ils sont vivants, mais pas engagés dans des partis, mais dans des mouvements. Et en plus, en effet, dans une famille où on a toujours parlé politique, et on continue. Et on a l'habitude de s'engueuler sur ça. Ouais. Mais c'est-à-dire que, plus que le militantisme, il y a des familles où il y a des vrais militants qui se lèvent le matin, qui vont tracter, qui ont une habitude de ça. Nous, c'était surtout un engagement et peut-être aussi de nous apprendre à pas prendre les choses pour argent comptant et se poser des questions.
Vous avez été donc cette petite adolescente qui descend dans la rue, qui va le dire chez Dorothée, pourquoi elle s'implique pour défendre les lycéens. Vous avez dirigé ACT UP après avoir milité à ACT UP. On a souvent dit que vous étiez la première femme à diriger ce mouvement hétérosexuel et séronégatif. On précisait ces adjectifs à l'époque, et puis vous avez dirigé Europe Écologie Les Verts, et enfin vous êtes devenue ministre. Est-ce qu'il y a un fil entre militantisme et engagement politique au sens premier ?
Je sais pas trop, parce que bon, vous l'avez dit, je me suis engagée quand j'avais 15 ans, mais l'histoire avec ACT UP, c'est autre chose. C'est-à-dire que, à 17 ans, je découvre une autre réalité. Et c'est cette réalité qui m'a imposé d'être engagée et donc d'être militante. Peut-être que j'aurais changé totalement de voie si j'avais pas découvert ce qui se passait. Je dis ça parce que, maintenant, il y a le film 120 battements par minute explique un peu ça, donc peut-être que les gens se rendront compte, mais, moi, j'ai découvert en 92, en fait, qu'il y avait des gens qui, tous les jours, mouraient du sida, dans une indifférence totale, dans une violence sociétale forte, et que rien ne se passait. Et en découvrant ACT UP à une manifestation, en allant à une réunion, d'un seul coup, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai fait un choix, c'est qu'ACT UP, en fait, m'a fait comprendre qu'il fallait être là, il fallait plus en partir, et qu'il fallait faire changer ça. Donc c'est ça, en fait, qui a changé certainement le cours de ma vie. Mais après, il est vrai que j'ai certainement gardé, quelles que soient les fonctions de responsabilité que j'ai eues, une certaine colère, une certaine capacité aussi à... Je ne sais pas si c'est l'indignation, comme ce que racontait, écrivait Stéphane Hessel. En tout cas, quelque chose qui fait qu'en effet, je ne suis jamais très reposée, tout à fait sereine.
Emmanuel Cos, vous avez aimé ce film de Robin Campillo, 120 battements par minute ?
Oui, je l'ai énormément aimé. Je ne vous cache pas que ça m'a mis dans un état assez difficile, en fait, parce que ça a réveillé beaucoup de démons. Mais oui, c'est très troublant de voir quelque chose qui n'est pas totalement votre histoire, mais en fait, qui l'est aussi totalement. Mais c'est magnifique, et en plus, c'est au-delà de l'histoire, du fond, c'est aussi un très beau film.
Et au milieu de ce film, enfin dans ce film, on les voit danser, ces jeunes gens et ces jeunes femmes.
C'est une réalité. Hein,
vous dansiez comme eux ?
On dansait beaucoup, et on buvait beaucoup, oui. On filmait beaucoup. Oui, je pense que c'était aussi ça, c'était une énergie qui nous permettait de, je pense, de tenir. Ouais.
Donc ça, c'est juste dans le film aussi.
Ah oui, mais de toute façon, tout est juste.
Et ils dansent sur un remix de Bronze Kibit, qui était l'un des groupes phares des années 80, écoutez.
Vincent Josse sur France Inter.
Denis Podalydès, vous m'avez dit, moi le militantisme ça me fascine, je ne suis pas un militant mais ceux qui le sont me fascinent.
C'est ça, j'ai essayé Et j'ai toujours été un militant calamiteux. J'ai sous les yeux un texte d'un de mes écrivains préférés, Michel Léris, qui doit, dans une cellule du Parti communiste, essayer de comprendre le débat qui oppose donc des communistes dans la ligne soviétique et d'autres qui parlent de l'opposition trotskiste. Je peux vous lire quelques lignes. Pour me ranger ouvertement du côté de l'opposition, il eût d'ailleurs été nécessaire que je fusse mieux documenté, car si l'on prend parti pour une minorité, il faut bien être en état de tenir tête. Qu'il y ait là défaut de dialectique, propension trop scrupuleuse à une pesée exacte du pour et du contre, doute fondamental laissant la porte ouverte à toute contestation ou simple manque de caractère, simple manque de caractère, il est certain, au demeurant, que je n'ai jamais su ne pas me laisser entamer dans une discussion, et ce n'est pas pour rien que ma compagne a souvent jugé utile de me rappeler qu'il importe d'avoir le courage de ses opinions. Puis un peu plus loin, il doit, là où il va souffrir, il doit rendre compte de cette réunion à sa propre cellule. Ce qui porta au comble ma dépression, c'est le compte-rendu qu'il me fallut ultérieurement donner de cette assemblée à mes camarades de cellule. M'efforçant de résumer le débat, je m'embrouillais lamentablement dans l'erreur dénoncée par les uns, que serait la sous... etc. et je passe. Personne ne comprit goutte à mon exposé et je me vis, pour finir, reprocher aigrement de ne pas avoir protesté avec vigueur au moment où notre cellule avait été critiquée. Sur ce point, je n'aurais pas eu besoin de tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de répliquer et le blâme n'était que trop juste, de sorte qu'il y avait une seule chose à conclure de ma conduite durant tout ce dimanche, c'est que j'étais fâcheusement dépourvu de l'esprit d'à propos et des autres vertus tant intellectuelles que morales, sans lesquelles on sera peut-être un partisan dévoué, mais jamais un véritable militant. Et je me reconnais tout à fait, j'ai connu cette situation où j'ai manqué du courage tout court, et Manuel Kos incarne pour moi une figure du courage politique, de l'engagement, très tôt, quand ACT UP est apparu. Moi, j'ai vécu tout ça pleinement, puisque c'est ma génération qui était touchée de plein fouet. J'ai perdu quantité d'amis, de camarades de classe, camarades de cours. Je me rappelle de la première conversation où j'ai entendu parler du sida sans qu'il soit encore nommé sida. On parlait d'un herpès qui tuait les singes et les pédés. Voilà, c'est comme ça que je la première occurrence, et c'était à la table de la cantine du lycée Fénelon, et à cette table, je crois 3 ou 4 personnes sont mortes par la suite. Et donc ACT UP, ça a été pour moi une sorte d'acte de courage fou. En plus, c'était insensé, c'était presque de l'ordre esthétique aussi, les interventions. Et puis quand Emmanuel Kos a été président, je me dis, tiens, le mouvement crée vraiment dans la société, arrête le temps et change et modifie cette chose dont je me sens moi toujours incapable. Comment arrêter le temps, le modifier, être dans l'agir, être au présent du présent.
Emmanuel Kos, avez-vous du courage politique?
Ah bah oui, c'est pas elle de
je sais
même.
Pas, mais, c'est mais moi qui... ce que je pourrais dire, c'est que ACT UP m'a appris à avoir du courage. Est-ce que j'en avais avant?
Oui,
je sais pas
dès
trop.
15 ans, quand on vous entend prendre
oui,
la parole
comme
ça. Oui,
mais est-ce que c'est du courage? Est-ce que c'est...
Si, c'est parfois de l'inconscience. Les gens vous disent, mais t'es inconsciente, t'es entêtée, t'es bête, arrête avec ta grande gueule. Toutes les personnes qui sont courageuses s'entendent dire ça. Pourquoi tu nous pourris l'ambiance avec tes propos, mais la ramène pas avec ta politique?
Oui, et c'est sûr qu'avec le CIDA, on a été extrêmement dérangeant parce qu'en fait, on a dérangé une société qui voulait pas voir une catastrophe qui se passait. Moi, je suis arrivée à ACT UP en 92, il y avait 7000 personnes qui mouraient chaque année, 8 à 10 000 en 1995. Mais c'est vrai que c'est ACT UP qui m'a appris, en tout cas peut-être, à utiliser ce courage ou ces qualités pour en faire quelque chose. Et aussi ne pas être juste dans la posture du militant, parce que ce qui est intéressant dans ce que vous lisiez tout à l'heure, c'est que il y a aussi le dogmatisme du militant. Enfin, moi, quelque chose qui m'insupporte et tout. Pourquoi est-ce que j'ai pu militer et que j'essaie de le faire aussi autrement aujourd'hui? C'est parce que j'y voyais une évolution concrète, une traduction concrète, quelque chose qui permettait aussi de faire bouger la société et pas juste de me créer à moi une place dans la société. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'à un moment, on a besoin de révélateurs. Et ACT UP m'a appris à ça. Et 20 ans plus tard, même quand j'étais ministre, il y a des moments, je suis bien heureuse d'avoir ce ressort-là, d'avoir pu à un moment dire que non, on fait pas comme ça dans des cercles très feutrés où... Il faut faire comme vous le disent d'autres et vous dites non, on va faire autrement parce qu'il faut trouver. Donc voilà, c'est... Mais bon, c'est aussi peut-être parce qu'à ACT UP, j'ai appris qu'il n'y avait pas de fatalité. Et ça, je pense que c'est l'enseignement que j'ai reçu de ça. C'est-à-dire que c'est vrai, ACT UP, c'était une moyenne d'âge 25-30 ans de gens qui allaient mourir. Énormément sont morts. Mais il y avait l'idée qu'il n'y avait pas de fatalité à ça. Il fallait qu'on inverse cette tendance. Et sincèrement, on y croyait à peine, hein. Moi, je suis arrivée à ECTOP, on ne pensait pas qu'on aurait des traitements qui seraient révolutionnaires 4 ans plus tard. En plus, on était rongés de l'intérieur par cette douleur, par ces morts. Mais en même temps, cette fatalité, on l'a inversée. Donc, c'est aussi ça, moi, que je me dis tout le temps quand on nous explique que rien n'est possible, ce qui est un discours très politique. Rien n'est possible, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'alternative. C'est quelque chose auquel je ne crois pas, et moi-même j'essaie d'éviter d'avoir ces discours, ces sentences.
Yoann Chapoutot, historien.
Très frappant ce que vous dites sur la fatalité. Les historiens travaillent beaucoup là-dessus, en fait. Nous, on commence par la fin, hein. On commence une histoire par la fin, et on a tendance parfois à écrire un récit, à écrire un discours, et les récits, les discours sont importants parce qu'ensuite ils nourrissent l'action ou pas. Et on a tendance peut-être à montrer que tout devait forcément terminer par, bon voilà, ce qu'on appelle techniquement la téléologie, hein, le fait que on fait un logos, un discours qui est orienté par un telos, un but. Hein. Par exemple, dans l'histoire de l'Allemagne, tout mène à 1933. Ou dans l'histoire contemporaine de la France, tout mène à l'élection présidentielle récente, etc., etc. Ça, c'est une manière de fataliser les choses. Hein, une fatalisation de l'histoire. Défataliser l'histoire, ça, c'est raisonner de manière un peu contrefactuelle, en se posant toujours la question, et si s'était passé ceci, s'était passé cela. Et c'est aussi un état d'esprit. Par exemple, pour l'histoire de l'Allemagne, que je connais un peu mieux, tout ne mène pas à 1933. Et ce qui est assez intéressant, là où l'histoire du nazisme reste quand même un peu sympathique, si vous voulez, c'est que, si je puis dire, c'est que c'est un exemple paradigmatique pour montrer que tout n'est pas fatal en histoire. L'arrivée d'Hitler au pouvoir, Hitler lui-même n'y croyait pas. Voilà. Vous prenez les nazis à l'automne 1932, ils sont les premiers à dire que c'est fini, c'est fichu, on replie les Gaules, on range les affaires et on s'en va. Donc c'est très important et de voir cela parce que, effectivement, dans l'espace social et politique, depuis en gros la fin des années 70, depuis la fin d'un certain consensus keynésien, depuis l'arrivée de ce qu'on appelait l'ultralibéralisme, c'est-à-dire le libéralisme sans règles, depuis cette arrivée-là, début des années 80, Reagan, Kohl, Thatcher, etc., vous avez cette fameuse phrase terrible qui est devenue un acronyme, un slogan de Thatcher qui dit « Tina, there is no alternative ». C'est comme ça. Et on vous présente les choses de telle manière à ce que vous croyez que ce qui arrive dans l'histoire procède d'une fatalité ou d'une nécessité d'ordre naturel. C'est un événement naturel, cataclysmique, catastrophique. On ne peut rien faire contre ça.
Denis Podalides.
Oui, bah, je suis très heureux de vous écouter. J'ai presque rien à ajouter parce que je suis, c'est ce qu'on entend toujours. Ça me fait beaucoup, tout le travail aussi de Pierre Bourdieu. J'ai pas évoqué, mais qui est si important dans ma formation. Oui. Mon meilleur ami et son fils.
Emmanuel Bourdieu.
M'a éclairé sur quantité de choses et il travaillait précisément la sociologie. C'est précisément dans ce but-là de défataliser, ne pas essentialiser les choses, voir que les rapports entre les choses, c'est toujours plus important que les choses elles-mêmes.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Vous êtes François Mitterrand, le type même de l'animal politique en semi-liberté. Je vais pousser sportif, très sportif même.
Ouais. Mon cher Chancel, mon cher Jacques Chancel, même, n'ayons pas peur des mots. Je dirais que dans la vie, on a beau dire, mais il n'y a pas à dire, moi, c'est ce que je dis. Il n'y a que les imbéciles qui gardent la même idée toute leur vie. Ça a toujours été mon idée.
Vous sauriez, Denis Podalides, vos invités aussi, Thierry Leluron imitant au micro de Jacques Chancel sur France Inter, Mitterrand. Il était important, Leluron, dans la famille Podalides. Il faisait rire et vous imitiez Leluron qui imitait Mitterrand.
J'aimais beaucoup imiter, moi, enfant.
Vous le faites toujours,
d'ailleurs. La télévision prenait une grande place. Mon père l'allumait souvent, avait installé la salle à manger, avait même installé un miroir de telle façon qu'à table, on puisse voir la télévision, ce qui énervait ma mère, ce qui m'agaçait aussi. Il y avait la gauche et la droite dans ma famille. Ma mère était prof dans un lycée communiste à Saint-Cyr-l'École. Tous ses amis étaient communistes. Elle était à gauche. Mon père, lui, avait même parfois une certaine nostalgie de l'Algérie française. Ma grand-mère était d'une droite catholique versaillaise immémoriale. Ils étaient engagés, mais dans des sens différents, ce qui fait que les enfants étaient à la croisée des chemins. On était un peu tétanisés par ça. La vie politique faisait partie de la vie familiale, mais de manière extrêmement irruptive, violente, qui pouvait aller quand mon père, soudain, évoquait l'Algérie. Ma mère partait en flèche. Et le Luron, c'était une voix qui rendait drôle tout ça, qui amenait du lion. Donc j'aimais bien. En même temps, moi, je sais pas pourquoi, mais il était à droite, le Luron. Je le situais très à droite.
Très à droite.
Ah oui, quand même. Ouais. Et de toute façon, pour moi, la télévision, c'était à droite. Donc, par principe, je n'aimais pas.
Parce que vous étiez déjà de gauche enfant, finalement.
Ah, j'étais du côté de ma mère. Je me rappelle que un livre avait été fondamental pour moi. S'appelait « La vérité guidait leurs pas ». C'est un livre de l'historien Henri Guillemin. Ma mère lisait ça, j'étais vraiment petit.
Vous connaissez Johann Chapoutot?
C'est des entretiens, en fait. Hein,
c'est des entretiens, oui. Il parlait de Jaurès, il parlait de Blum. Et pour moi, ce sont devenus des grands hommes. J'ai entendu parler de Jean Moulin très très tôt. J'ai lu très très tôt le discours de Malraux. Tout ça faisait vraiment partie du paysage immédiat, vivant, et très très conflictuel.
Mais si je puis... Johann Chapoutot?
Ce qui m'a peut-être empêché aussi d'être... militant, justement, parce que j'étais tout le temps, j'aimais mon père profondément, et donc je n'aimais pas qu'il s'oppose, je rêvais d'une impossible entente, d'une réconciliation, je suis toujours attiré par les diplomates, ceux qui essayent de concilier les contraires qui s'excluent, la contradiction est l'endroit qui m'intéresse.
L'historien Johann Chapoutot vous répond.
Denis Podalydès parle de dialectique au fond, et c'est une vraie chance en fait de grandir dans un milieu comme ça. Moi j'ai des parents de droite, voire de droite très dure, j'avais une grand-mère que j'adorais de gauche, prof, et j'ai eu des profs de gauche dans une municipalité communiste. Et c'était génial, parce que du coup, j'ai pu voir à l'œuvre la dialectique, j'ai pu voir à l'œuvre les tensions, et j'ai pu me déterminer et faire mon choix.
Mais, Emmanuel Cos. Ce que j'entendais tout à l'heure de Denis qui disait qu'il était un militant calamiteux, je crois qu'il faut pas... on peut être militant...
On peut être un mauvais militant et militant quand même.
Voilà, et non mais je voudrais ça parce que moi j'aime pas la médaille à certains et tout ça. Moi j'ai milité avec des gens qui, leur boulot c'était de coller des enveloppes et d'autres donner de l'argent. Je dis ça parce que je voudrais pas qu'on laisse entendre qu'il y a ceux qui arrivent à le faire pour des tas de raisons et puis les autres qui peuvent pas.
Mais vous avez envie de vous réengager en politique ou de redevenir militante?
Ça je ne sais pas et je veux surtout réfléchir parce que le luxe que j'ai actuellement, c'est de pouvoir déjà de nouveau lire, discuter sans ambition politique avec des gens et sans questionnement politique et de pouvoir construire. Mais après, moi, il y a des sujets qui me taraudent, la question des migrations et notre incapacité, et je le dis en ayant été en responsabilité de ce sujet, incapacité d'avoir une vraie politique d'accueil sur les migrants en Europe. Vraiment m'insurge et je pense qu'il faut pas être juste dans la dénonciation, la posture. Il faut se poser la question comment on fait vraiment, comment de manière très concrète on fait les choses. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. On est dans une démocratie qui est très aboutie. Je le dis parce qu'il y a ce sentiment qu'on pourrait pas faire, c'est pas vrai. Et la question, c'est comment on trouve la voie. Mais elle est très étroite cette voie. J'ai été ministre et plein de gens me reprochent de l'avoir été, me reprochent de ne pas avoir fait plus, me reprochent d'avoir soutenu certains projets.
Et qu'est-ce que vous faites de tout ça? Comment vous vivez avec ses reproches?
Vous les combattez, vous cherchez. Moi, en tout cas, j'essaie toujours de convaincre. Puis après, vous en mettez aussi certains de côté, parce qu'il y a les reproches et il y a la violence. Oui. Et ce qui a aussi changé. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est difficile d'être militant. C'est qu'être militant, c'est accepter de prendre des coups. Alors, prendre des coups des gens que vous avez cherchés, entre guillemets, de vos ennemis, c'est une chose. Prendre des coups gratuitement, c'est très difficile. Vous le payez, d'être engagé. Vous le payez personnellement, vous le payez dans vos carrières professionnelles. J'aurais pas été militante, peut-être que j'aurais terminé ma thèse de droit et que j'aurais été dans une vocation universitaire. J'aurais peut-être eu une autre vie. Et je le dis parce que c'est un coût. Après, on le fait je savais que ça serait ça. Vous voyez, être militante de la lutte contre le sida début des années 90, le film montre pas trop ça, mais de Robin Campillo, mais on s'en prenait plein la tête. Vous parliez des gens à qui on demande pourquoi est-ce qu'ils font des recherches en histoire sur notamment les médiévalismes. Enfin, moi, on m'a dit, mais t'es hétéro, pourquoi tu t'occupes du sida? T'as vraiment que ça à foutre dans ta vie? Il faut se rappeler de cette violence qu'on rencontre et que rencontrent plein de militants, même sur d'autres sujets.
Merci d'avoir été avec nous dans le grand atelier de Denis Podalydès. Emmanuel Cos, merci. Johann Chapoutot, je précise qu'on peut lire de vous l'histoire de l'Allemagne de 1806 à nos jours, le nazisme et l'Antiquité, ou aussi la révolution culturelle nazie. Portez-vous bien. Emmanuel Cos, vous n'êtes pas la seule femme de ce grand atelier aujourd'hui. Non, on va écouter un groupe qui s'appelle La Femme, justement. C'est un groupe de rock français. La chanteuse s'appelle Clémence Kellenek. Et la chanson qu'on écoute s'intitule « Le vide est ton nouveau prénom ».
De roses blanches se sont fanées samedi, comme la fin de notre histoire déjà finie. C'est dur d'y croire.
quelques mois plus tard, on se recroise, c'est vrai. Ta tête me dit quelque chose. Oubliez que tu existais. Après tout, je ne voulais peut-être pas te garder dans ma tête, ni dans mon cœur. À la place, j'y ai mis du vide. À la place, j'y ai mis du vide. Un autre vide en échange d'une personne vide comme la tienne. Tu sais, le vide reste pas longtemps, car un jour quelqu'un prendra la place de ton vide et j'en serai indifférente. Et j'en serai indifférente. Une étoile t'est tombée des mains. Tu la regardes partir loin. Les étoiles s'affilent pour de bon. Maintenant, elle doit veiller sur quelqu'un d'autre que toi.
Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Denis Podalydès, on a évoqué la voix VOIE et la voix VOIX. On écoutait Thierry Leluron. On sait que vous êtes un imitateur. Vous faites beaucoup rire, paraît-il, vos camarades de la Comédie Française quand vous imitez, je sais pas, Jacques Lassalle ou peut-être même Méric Ruff. Je ne vous demanderai pas d'imiter qui que ce soit maintenant. En tout cas, vous avez une fascination et vous avez écrit sur cette fascination un livre magnifique qui s'appelle Voix Off. On a eu envie d'aller interroger des chanteurs précisément sur la voix, ceux du chœur Accentus, ce chœur né du désir de la chef Florence Equilbé. Il répétait une pièce contemporaine et Vinciane Lomonier les a interrogés sur leur voix.
Lettre B, lettre B. 1, 2, 3, 4.
Alors, je m'appelle Émilie et moi, je suis soprano.
Moi, je m'appelle Bruno et je suis contre-ténor. La mienne, c'est une voix un peu particulière parce que c'est un garçon qui chante aigu, qui utilisent ce qu'on appelle leur voix de tête pour chanter aussi dans les aigus.
Mais ce qui est sûr, c'est que quand on ne se sent pas bien, on ne chante pas bien. Et ce qui est important, c'est de ne pas se laisser déborder par des sentiments. Les sentiments, c'est pour les gens qui nous écoutent, c'est pas à nous de les ressentir. On est là pour les faire ressentir aux gens. Nous, on doit maîtriser notre corps et notre technique vocale et notre voix pour faire sentir quelque chose aux autres.
Et est-ce qu'il y a des choses de votre voix parlée que vous retrouvez dans votre voix chantée ?
Souvent, c'est le cas. Mais en même temps, on s'entend pas à nous-mêmes, on ne sait pas exactement comment on sonne.
Même si j'ai une voix parlée plutôt aiguë, quand je chante, j'ai pas du tout la même voix que quand je parle. C'est pas que j'ai deux casquettes, je suis la même personne, mais c'est vrai qu'il y a le côté chanteur et le côté quotidien. Enfin, voilà.
Chez les femmes, les hormones font changer la voix. Ce qui est assez rigolo, c'est que le timbre reste le même, l'identité reste la même, mais nous, on sent qu'on a des voix différentes parce qu'on a des corps différents. Et on se sent différent, mais la voix reste exactement la même. C'est peut-être la manière dont on l'aborde qui est différente.
Je
Alors Laurence Equilbé, comment est-ce que vous, vous définiriez une voix ?
C'est un instrument, la voix c'est un instrument donc, qui est à l'intérieur du corps humain, qui dépend beaucoup de son état physique, de sa forme, aussi de l'hygiène des cordes vocales, et qui aussi est beaucoup plus lié à la psychologie de l'artiste qu'un autre instrument.
Et qu'est-ce que vous aimez dans une voix ?
Ce que j'aime, c'est qu'on sent beaucoup les registres. C'est par exemple un piano, si vous faites un grave ou un aigu, il n'y a pas plus de difficulté à faire un grave qu'un aigu dans un piano. Et justement, la difficulté pour les pianistes, c'est de montrer la tension qui se crée si par exemple vous allez monter dans une mélodie. Tandis que dans le chant, il y a quelque chose de très naturel entre le rapport de cette incantation et le sentiment que ça peut dégager grâce au fait qu'on ressent beaucoup les hauteurs, les tessitures.
Est-ce que vous pouvez être touché autant par une voix parlée que par une voix chantée ?
C'est vrai que les timbres me touchent beaucoup, mais les timbres de voix, c'est vrai qu'une fois que la voix se met en mouvement, notamment dans le style lyrique avec ce beau vibrato, cette vibration qui se met en branle, c'est très touchant parce que il y a quelque chose d'un petit peu intra-utérin. La voix, c'est quelque chose qu'on entend très vite quand on, paraît-il, disent les scientifiques, quand on est dans le ventre de sa mère, et donc il y a quelque chose de très profond qui se réveille, et c'est pour ça que ça déchaîne aussi autant de passion.
Est-ce que les voix sont malléables ?
Les voix sont très malléables, c'est un peu comme une matière plastique, je dirais, qu'on peut façonner, qui peut à la fois soit être hétérogène, soit homogène, suivant que vous le décidiez, soit très fine ou soit épaisse, chaude, très profonde ou légère. Voilà, donc c'est vraiment une matière fascinante.
Okay. Soprano, juste les sopranos, troisième de C, 3, 4. Voilà, c'est ça le son.
La voix qui vous a le plus marqué dans votre vie ?
Je l'écoute régulièrement parce qu'elle m'apaise. C'est la voix de Jean Ferrat.
Ma mère.
La voix qui vous rassure ?
Je dirais par exemple le ténor anglais qui s'appelle Ian Bostridge, qui a une voix très très douce, très apaisante.
La voix de mes enfants qui vont bien.
La voix qui vous insupporte ?
Ma mère.
C'est les voix qui parfois sont nasales, insérées dans le larynx. Ça, c'est pas très agréable.
La voix qui vous est la plus familière ?
Peut-être la mienne, je pense, ou bien...
Martine à la SNCF.
Ouais, j'écoute la radio, donc certaines voix de radio dont je connais pas les noms parce qu'il y a trop de turnover.
La voix que vous aimeriez entendre avant le grand départ ?
J'aimerais bien réentendre la voix de Brigitte Anguerrer, qui est une grande pianiste qui nous a quittés. J'adorais sa voix. Très, très jolie timbre, très doux et à la fois assez autoritaire. J'aimais beaucoup.
Je suis pas sûre que j'aimerais entendre une voix. Je pense que... Entendre des respirations, comme ces respirations que tu entends juste avant que les voix ne sortent en concert, comme ça, quand il y a un silence incroyable, et que tu entends juste les respirations qu'on prend avant de chanter. Je préférerais entendre ça plutôt que des voix.
Nous les chanteurs, la voix c'est tellement nous qu'on peut avoir tendance quelquefois à être un chouïa hypochondriaque. En tout cas, on a souvent très peur de perdre notre voix. Donc, bah, par exemple, quand je parle, je me fatigue ma voix chantée avec ma voix parlée. C'est mon principal ennemi. C'est plus qu'un instrument, la voix. J'ai l'impression qu'on se met plus à nu devant un public qu'un instrumentiste qui pourrait éventuellement se cacher derrière son instrument. C'est mon instrument, mais c'est moi. C'est moi aussi. Donc c'est psychologiquement complexe.
C'est quand même, ça nécessite quand même une impudeur totale.
Je ne dis pas les mêmes choses quand je chante et quand je parle à quelqu'un. Et c'est pour ça que j'aime ce métier.
Merci, merci, merci. Ok, ça marche bien, ça. Une chose que je voudrais juste refaire, s'il vous plaît, 117. Juste les...
Le beau reportage de Vinciane Lomonier sur la voix, oui. Le mystère, oui. De la voix. La voix nécessite une impudeur, disait une chanteuse, Denis Podalydès.
Ben oui, surtout quand on est chanteur ou même acteur. J'ai l'impression que c'est ce... l'organe par lequel on se dévoile, presque plus que quand on apparaît physiquement, parce que souvent les textes demandent qu'on s'engage vocalement, et quand on se met à parler, on délivre une multitude d'informations qui précèdent même l'énoncé qu'on est en train de former. Et parfois, une voix mal placée, ou un texte mal construit dans l'énonciation, eh bien, rentre en contradiction avec toutes les autres informations qui ont été délivrées par la voix, ce qui fait que c'est la cacophonie. il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et c'est pourquoi la voix, et c'est là, parfois ça ne ment pas, justement. Un acteur qui est là, qui est présent à ce qu'il fait, je pense que c'est pareil pour un chanteur, mais ça s'entend aussi pareil dans la vie, mais quand la voix est engagée comme elle peut l'être sur un plateau de théâtre, là ça ne triche pas.
Merci Denis Podalydès.
Merci à vous.
Est-ce qu'on vous a un peu diverti au bon sens du terme avec ce grand atelier, diverti de vos répétitions et de l'angoisse qui est là?
Oui, mais elle est là tout le temps. En même temps, je ne cessais d'y penser parce que je dois retourner séance tenante, je pense faire d'importantes modifications qui ne résultent pas forcément de, en partie d'ailleurs avec ce que m'a dit Pierre Bergougnou
au début de l'émission.
Mais voilà.
Travaillez bien, soyez heureux et on pense à votre Scapin.
Merci. Merci à vous tous d'être venus.